Déambulation.
Erdiwa présente dans les plaines de Chamarge. Épisode 1, visite chantée en zone menacée.
Allez, on avance les petits envois sur ces gars, on sur ces gars, à droite, à gauche.
La croix,
on va se faire de la porte, on va te
chanter pour les rois. Si j'aime ce pays, la terre qui m'a vu naître, je ne veux pas de Dieu, je ne veux pas de maître. Je ne veux pas de Dieu, je suis mon propre maître.
Dit Drôme, juin 2020.
Alors nous sommes au milieu de la plaine de Chamarge.
Vincent Paltera, exploitant agricole, Confédération Paysanne.
À savoir les meilleures terres agricoles du Diwa, les mieux exposées, les plus facilement irrigables, celles qui ont le moins de cailloux. Et on est sur le rond-point. Qui jouxte la zone artisanale et les derniers champs de la plaine de Chamarge qui nous restent, qui vont bientôt être amputés de 4 nouveaux hectares par l'extension de la susdite zone artisanale.
Depuis le 17 juin dernier, juste à la sortie de Die, sur la plaine dite de Chamarge, aux portes du parc naturel régional du Vercors, des hommes et des femmes se regroupent chaque mercredi dans l'après-midi.
On est ici sur ce rond-point pour dire qu'on n'aimerait pas que ça devienne le dernier endroit cultivable de la plaine. On est ici parce qu'il y a un appel qui a été lancé à l'échelon national contre la réintoxication du monde. Les mois de confinement qu'on a passés nous ont montré qu'une grande partie des projets de développement économique qui étaient basés sur l'extension du bitume étaient loin d'être nécessaires. Et ce qui nous semble nous plus nécessaire, c'est de préserver des terres pour pouvoir se nourrir localement. C'est pour ça qu'on est rassemblés ici et qu'on va essayer de faire passer le message à ceux qui décident les futurs plans locaux d'urbanisme, ceux qui décident l'extension des zones artisanales, ceux qui décident de la construction de nouveaux lotissements et qui nous ont amenés là où on en est aujourd'hui. Il faut savoir qu'aujourd'hui, par rapport aux années 60, l'espace urbanisé de Die a été multiplié par 5, alors que la population, elle est passée de 3900 à 4600 habitants. Donc le rapport n'est pas du tout le même. Et on est quand même dans une zone de montagne, avec des vallées très étroites qui fait moins d'un kilomètre de large. Les anciens avaient pour habitude en fait de ne jamais construire sur le moindre bout de terrain plat travaillable. Les anciens avaient plutôt l'habitude d'aller décaisser un bout de colline, creuser dans la roche, là où en fait on pouvait rien faire pousser pour construire leur maison, pour construire les bâtiments dont ils avaient besoin. Et je dis pas que tout était beau, tout était propre dans l'ancien temps, loin de moi cette idée-là. Mais par contre, au niveau urbanistique, on peut dire que là, on arrive à un point limite au-delà duquel, en fait, on sera éternellement dépendant des camions pour se nourrir dans la vallée du Diwa.
La vallée de la Drôme, c'est en train de devenir comme la vallée du Rhône. C'est du n'importe quoi. C'est un espèce de modèle de développement complètement passéiste. Je trouve ça stupide. Je veux dire, je comprends pas. Je comprends pas qu'il y ait des politiques qui puissent choisir ça.
Mais là où il faut insister, c'est sur le fait que ces terres-là, en fait, c'est les meilleures terres du Diwa. Et les meilleures terres du Diwa qu'on choisit pour encore étendre les zones bitumisées et bétonisées, c'est sincèrement quelque chose d'absurde que j'arrive pas à envisager qu'en 2020, il y ait encore des gens qui puissent se dire « mais allons-y, sacrifions ces terres-là, c'est pas grave, de toute façon, ça va être bon pour l'économie ».
Et aujourd'hui, du coup, a été lancée la proposition d'une balade pour découvrir la faune et la flore qui vivent et se développent sur ce territoire. Les terres qui sont ici, c'est semble-t-il, d'après les cultivateurs, les terres les plus les meilleures terres dans le sens où c'est celles qui sont en fond de vallée, qui sont quelque part le plus simple à cultiver. Voilà. Et puis il se trouve que quand on réfléchit à une échelle plus globale, on se dit qu'une zone commerciale, entre autres, on y trouve des magasins pour se nourrir avec de la nourriture qui peut venir des quatre coins du monde. Et que voilà, il y a un problème à court terme ou moyen terme pour nous qui se pose en tant qu'humain, qui est la question de l'autonomie alimentaire en fait. On est dans un modèle qui est quand même très problématique.
Là, quelques dizaines de citoyens, mais aussi des candidats aux élections municipales, manifestent leurs inquiétudes quant à l'avenir de cet espace de biodiversité et d'agriculture, qui, peu à peu, se construit, et ce, au fur et à mesure des changements de PLU. D'année en année, les terres fertiles de la vallée sont ainsi vendues à des promoteurs, des entreprises privées ou des services publics. D'ailleurs, l'Agence régionale de santé, l'ARS, vient d'acquérir sur cette zone une parcelle de terrain pour y construire le nouvel hôpital de Die.
Alors, on ne va pas forcément débattre maintenant de pourquoi déplacer l'hôpital là-bas. Je pense que vous avez tous un peu votre avis, qu'a priori vous êtes contre, mais voilà. Entre-temps, une info qui est tombée, c'est qu'en fait, ça passe en déclaration d'intérêt public. Donc, même l'étude d'impact environnemental, qui normalement est la procédure, n'aura pas lieu. Donc, même s'il y a des espèces protégées, ça ne change rien. N'empêche que, voilà, on a quand même plaisir à être là pour défendre ces terres, qui est des espèces protégées ou pas d'ailleurs. Donc c'est des terres agricoles qui sont dans la plaine de Chamarges et qui sont menacées entre autres par ce projet de nouvel hôpital, mais aussi par l'extension de la zone commerciale. Voilà, donc c'est une petite balade sans prétention. En plus, c'est pas le meilleur endroit pour venir se balader. Mais c'est se rendre compte que si on veut que ça continue à rester relativement naturel, et ben faut peut-être, voilà, faut peut-être se bouger, faire des choses à différents moyens.
Dans la plaine de Chamarges. Bientôt, devant vous, 4 hectares des meilleures terres arables artificialisées pour étendre une zone artisanale.
Regardez le Diwa. Regardez les montagnes. Regardez combien il y a de terres plates irrigables.
Juste pour rebondir un petit peu sur justement l'histoire de l'agriculture, le Diwa a eu plus ou moins la chance d'être oublié des grandes campagnes de remembrement qui ont été menées dans les années 60-70 en France. Et du coup, comme vous pouvez le constater, en fait, les champs ici, qui sont donc les champs céréaliers à la base du Diwa, sont des champs de taille, on va dire, modeste. Si vous allez dans la Beauce, par exemple, ou d'autres endroits comme ça, vous pourrez voir que, ou en Bretagne, ou dans plein d'endroits de France, il n'y a plus un arbre, plus une haie, plus un talus, plus rien. Et il se trouve que la diversité, on l'a préservée dans le Diwa à la fois parce que c'était pas des terres intéressantes pour l'industrie agroalimentaire. Donc on s'est débrouillé, on a fait de la vigne, on a fait de l'élevage, et puis on a continué de faire quelques céréales. Mais si donc on a gardé tout ce paysage, toute cette biodiversité, c'est aussi parce que l'agriculture est restée à une échelle modeste et n'a pas plongé la tête la première dans le modèle industriel. Et cette chance qu'on a eue, là, si on la gâche en bétonnant le peu de terre plate arable qu'il y a là, c'est encore plus dommage, quoi. Puisque on va en fait sacrifier la chance qu'on a eue de garder une biodiversité tout en ayant une agriculture, viable à l'échelle locale. Sur l'autel du développement économique qui passe toujours évidemment par le déroulage de grandes bandes de bitume et de béton.
Vous êtes parti pour cramer en plein soleil sur le béton.
Ouais.
Allez.
Aujourd'hui, nous partons en reconnaissance de ce qui vit, mais aussi de ce qui se dit à l'endroit où des terres encore fertiles sont menacées. Vincent, Corinne, Grégory, Christine et les autres ouvrent le champ.
J'aime bien continuer à découvrir des choses. Et puis après, ben, tout le problème de l'hôpital, que ce soit le problème des terres agricoles qu'on bétonne, toutes ces magouilles financières, ces manières de procéder antidémocratiques me touchent profondément en tant que citoyen, citoyenne. Voilà.
Moi je fais partie des meutes, entre autres, une chorale de chants de lutte. Donc on s'intéresse aux différentes injustices et on avait bien envie de s'inscrire dans des démarches locales, de mobilisation locale, suite aussi à l'appel du 17 juin pour retourner à la grosse pollution du monde. Alors ça peut paraître complètement utopique, mais je pense que si on ne se mobilise pas, il ne se passera rien. Et c'est sûr qu'en face, on a des espèces de mammouths qui pèsent très lourd. Mais voilà, ça va dans ce sens-là, de continuer à se renseigner, essayer d'avoir un peu de transparence et puis de faire, si possible, avancer les choses dans le bon sens, ce qui n'est pas gagné.
Drôme, juin 2020.
Cette parcelle cadastrée 138 de quasi 4 hectares, c'est celle qui donc vient d'être achetée. je l'ai appris à l'instant comme vous, sans doute, pour ce projet de nouvel hôpital.
Grégory Lemoine, botaniste.
Donc comme vous voyez, c'est une culture de céréales. Et donc là, le sujet dont j'aimerais parler, c'est les plantes qu'on appelle les plantes messicoles. Donc messicoles, ça veut dire les plantes qui habitent les moissons. Donc c'est des plantes qui ont le même cycle biologique que les cultures de céréales. Donc quelques exemples hyper célèbres, le coquelicot, le bleuet, voilà, plantes connues, au moins dans l'imaginaire. Donc c'est une histoire super intéressante. On va pas passer deux heures là-dessus, mais juste pour dire que en fait, c'est une bonne illustration de comment une agriculture paysanne, respectueuse et si possible biologique, peut maintenir de la biodiversité. Et c'est justement pour contrecarrer l'opposition toujours entre la nature sauvage super préservée et les activités humaines, une espèce de dichotomie qui n'est pas forcément très souhaitable, même si c'est bien qu'il y ait des espaces complètement sauvages, mais en tout cas, voilà, ça existe. Et notamment... les ornithos sont très aériens, donc... et notamment, donc il y a cette complémentarité qui peut exister entre agriculture paysanne et biodiversité. Et notamment sur les plantes messicoles, on a des plantes qui sont très sensibles au mode cultural et très sensibles à l'utilisation ou non de pesticides. Une plante très célèbre ici, parce qu'on est dans un gros spot de population, c'est la tulipe sauvage. La tulipe sauvage a une grosse population, notamment dans cet endroit, dans toute cette plaine. Sur l'ensemble du Diwa, on est à 800 000 individus. Ça paraît beaucoup. Bon, il y en a déjà 100 000 qui ont été perdus avec l'agrandissement de la zone commerciale. Et c'est justement parce qu'il n'y a pas de labour profond, il y a tous des modes culturaux qui font qu'elle se maintient. Si vous passez le girobroyeur, si vous faites beaucoup de labour, si vous faites des labours profonds, la tulipe sauvage, elle disparaît assez vite. Il y a d'autres espèces comme ça, comme le glaïeul des moissons, qui sont indicateurs d'une bonne santé biologique des cultures de céréales. Voilà. Et pour autant, ces espèces-là, l'immense majorité, ne sont pas des espèces toxiques qui vont salir, entre guillemets, la récolte de blé. Voilà, comme on entend souvent des champs sales. Ouais, j'ai horreur de cette expression, mais c'est quelque chose qu'on peut entendre. Donc un peu de biodiversité dans les champs, ça ne compromet pas du tout la production céréalière. Voilà.
Je fais des relevés ornitho depuis 15 ans sur ce site-là, et j'ai 10 points d'écoute sur 10, là, donc qui représentent à peu près tous les biotopes que l'on peut avoir sur 10, que ce soit le centre-ville, un peu de forêt, un peu de haies, un peu de la Drôme, et ici donc c'est un point qui représente les champs, ce que vous voyez là quoi.
Gilbert David, naturaliste.
Ici sur j'ai pas fait le calcul exact, mais je pourrais le faire. Il y a au moins une trentaine d'espèces différentes que j'ai notées depuis donc 15 ans, et dont des espèces migratrices, et qui c'est une des haltes migratoires du Diwa. Hein. Ici, c'est à peu près un des rares coins où on peut entendre vraiment l'alouette des champs, l'alouette Lulu, hein, les deux alouettes d'ailleurs. Mais il y a aussi le tarier-pâtre, des espèces de plein champ. Et là, dernièrement, j'ai vu aussi le faucon cobèze, qui est un faucon qui est migrateur et qu'on voit qu'au printemps. Et c'est la première fois que je le vois dans le Diwa.
Je suis venue en tant que citoyenne lambda, absolument passionnée d'une part par la biodiversité, et d'autre part aussi très sensible à la destruction des terres agricoles. Et par exemple, je sais très bien qu'au niveau agricole, ici dans le Diwa, on n'est pas autonome. Sur le plan local, rien que au niveau des légumes, on n'est pas autonome. Et là, on va détruire 4 hectares de super terres. C'est les meilleures terres du Diwa. C'est les meilleures terres agricoles. Et là, on va faire on va bétonner, on va artificialiser, on va faire toujours des fausses bonnes raisons. Normalement, il y a cet inventaire qu'on fait là, ces relevés faunistiques et floristiques, c'est obligé de les faire avant d'entreprendre des travaux, d'acheter des terres. Donc, et là, ils ont passé outre ça parce que c'est soi-disant d'utilité publique. C'est complètement des fausses bonnes raisons, parce que évidemment qu'il y a besoin d'un hôpital dans le Diwa, je suis la première à le défendre, mais l'hôpital il existe déjà, et là où il est très bien, il suffirait de le rénover, de le restaurer, et puis de réinstaller la chirurgie, la maternité qui a été enlevée, parce qu'ils veulent le mettre là, mais c'est pas pour autant qu'ils veulent remettre la chirurgie et la maternité, c'est absurde.
L'artificialisation des sols, c'est, je vais répéter des chiffres que tout le monde devrait connaître, mais que je pense que tout le monde ne connaît pas. C'est un département tous les 10 ans en France qui disparaît sous le bitume, sous le béton. Donc voilà, c'est assez symbolique en fait de la fuite en avant de notre société et du modèle économique, de l'absurdité du modèle économique dans lequel on vit.
Alors, Corinne Morel d'Arleux, vous êtes là aujourd'hui, à ce mercredi, à ce moment de promenade, on pourrait le dire comme ça.
Une promenade militante, on va dire.
Oui, une promenade militante. Et alors, vous êtes venue en tant qu'élue ou citoyenne?
Ouais, ça fait partie des cas où c'est difficile de démêler les deux, c'est-à-dire que je suis à la fois ici en tant que citoyenne, habitante du Diois, et puis aussi là en tant que conseillère régionale, parce que je trouve que ça fait partie de notre travail d'élu d'être aussi sur le terrain. En plus, moi je siège à la commission agriculture et développement rural à la région, donc évidemment que la question du foncier agricole, les questions alimentaires, elles sont au cœur de mes réflexions, et que là c'est pas l'ensemble du souci, puisqu'il y a plein d'autres questions qui se posent, mais enfin une des questions qui se posent, c'est quand même effectivement de la pertinence de bétonner à nouveau des terres agricoles sur 10. Donc ça me paraît important d'entendre aussi ce que les habitants qui sont ici aujourd'hui ont à dire. Et puis, je dois dire qu'à à titre aussi personnel, j'ai quand même encore un peu en travers de la gorge la fermeture de la maternité, et qu'on se souvient que ce projet de bâtiment neuf au milieu des champs et la contrepartie que nous a accordée l'Agence régionale de santé pour fermer la maternité, alors que ça ne correspondait absolument pas aux demandes des habitants.
Donc la fermeture de la maternité s'est actée, c'est donc un échec pour celles et ceux qui sont mobilisés pour que cette maternité dure. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut rester confiant par rapport à ce projet de construction?
Mais c'est-à-dire que la question, elle est toujours la même quand on... Enfin, en tout cas, elle devrait toujours être la même quand on fait de la politique, c'est quand même de repartir des besoins des habitants et de la population. Aujourd'hui, on a besoin d'effectifs, on a besoin de moyens pour l'hôpital, pas forcément d'un bâtiment neuf, délocalisé, tout au bout de l'espace urbain de Die, avec un éloignement des patients, des personnes âgées qui seront à l'EHPAD, etc. Donc moi j'aimerais, même en tant qu'élu, j'aimerais avoir accès aux éléments qui ont participer de cette prise de décision, d'où sort cette décision, à quoi serait affecté le bâtiment de l'hôpital existant, est-ce qu'on a fait une étude pour étudier la rénovation du bâtiment existant et pouvoir le conserver en ville, parce que là ce qu'on est en train de déclencher, c'est toute une chaîne d'événements, y compris d'ailleurs par rapport aux commerçants du centre-ville qui sont déjà bien à la peine en ce moment et qui n'ont pas besoin qu'il y ait à nouveau de la clientèle qui parte du côté des zones artisanales, des supermarchés, etc. Donc voilà, ça soulève tellement de questions pour l'avenir de la ville et du territoire, que je trouve que ça aurait été bien quand même qu'on s'attarde deux secondes, qu'on sache sur quelle base avait été prise cette décision, par qui, et qu'on ait un petit peu plus d'informations. Pour l'instant, le moins qu'on puisse dire, c'est que tout ça est particulièrement opaque.
Et est-ce que vous avez une idée de à qui on pourrait s'adresser pour avoir justement un peu des réponses à cette question essentielle?
Logiquement, il y a le directeur de l'hôpital ou la directrice de l'hôpital qui, je crois, vient de changer. Enfin, normalement, c'est là où on devrait pouvoir avoir des informations. Mais elles sont difficiles à avoir. Et le site internet est catastrophique de l'hôpital. Voilà. Donc, il y a vraiment un problème d'information. Quant à la maternité, le combat n'est pas terminé pour la maternité. On peut très bien demander à ce que, s'il y a un nouvel hôpital, il intègre une maternité. C'est tout à fait possible.
Je ne représente pas la liste. Je viens ici à titre personnel. Je n'ai pas de délégation, je viens à titre personnel.
Christine Orange, liste dit commune en vie.
Ce que je peux dire, c'est que si on est élu, je défendrai en mon nom la préservation des terres agricoles, que certaines actions ont permis qu'on n'ait pas Notre-Dame-des-Landes ou le Center Park de Roibon, que je considère comme des grands projets inutiles, et je trouve que ça porte tort au bien commun, à la biodiversité et à notre capacité de nous nourrir.
Pas la croix,
tu n'es pour les curés, l'autre est pour les rois. Si j'aime ce pays, la terre qui m'a vu naître, je ne veux pas de Dieu, je ne veux pas de maître. Je ne veux pas de Dieu, je suis mon propre maître.
Comment et de quelle manière ces terres agricoles pourraient ne pas le rester? Qui décide et quels sont les rouages de tels projets immobiliers? Quels sont les besoins du territoire en termes d'aménagement et d'équipement? Comment et pourquoi les enjeux économiques et écologiques sont-ils à cet endroit en rivalité? Quelles peuvent être les compétences et les responsabilités des élus? Quelles actions citoyennes et politiques peuvent émerger? Qui voudra bien répondre à nos questions? Suite au prochain épisode. C'était dans les plaines de Chamarges, épisode 1, visite chantée en zone menacée. Une réalisation Erdiwa. Avec Vincent, Corinne, Grégory, Christine et les autres, et la chorale L'Émeute. Merci à vous, à bientôt.